Bonjour, ici François Nardou de Montcuq, depuis les studios du Boulevard. En ce début février, après vous avoir parlé du chocolat en décembre, la saison s'y prêtait, j'ai envie de vous parler de la moutarde. Pourquoi la moutarde, me direz-vous? C'est que la moutarde eût pu faire la gloire de Montcuq. Si une famille, une très vieille famille du village, du bourg, aux ancêtres présents dans le pays déjà au temps des Comtes de Toulouse, si cette famille avait maintenu, conservé la tradition de fabrication, de conditionnement et de commercialisation de cette moutarde dont un de leurs ancêtres était l'inventeur. Cette famille a donc désormais de nos jours et depuis tous les droits de propriété intellectuelle et commerciale sur la recette de la moutarde, son conditionnement et sa commercialisation. La tradition en est interrompue depuis quelques dizaines d'années, mais la moutarde de Montcuq est toujours présente dans la mémoire des gens du pays comme ayant pu illustrer le village qui est cher au cœur de tous. Alors, qu'est-ce que c'est que la moutarde dans la culture quercinoise ? Dans la culture de la France, que l'on croit être traditionnelle, mais qui en fait date du 19e siècle. Alors la moutarde, en occitan, c'est la moustardo. Au temps ancien où le latin se muait en parler d'oc, c'était un musteum ardens, c'est-à-dire un mou de raisin, vendangé, écrasé, pressé, mais un mou de raisin brûlant, ce que veut dire musteum ardens. Musteum ardens est devenu moustardens et finalement moutarde en français, moustardo en occitan. Alors le nom musteum désigne le mou de raisin, mais ça désigne en fait, et c'est l'origine du nom même de moissac, mouissac en occitan, ça désigne une masse, un pâton, mou, doux, humide et chaud, ce qui est le propre du mou de raisin après la vendange, où à la pulpe, la peau des raisins est écrasée à l'état de pâton. Et ce musteum ardens, ce mou brûlant, ce mou ardent, ce moutardant, si vous voulez, cette moutarde, dont il est si souvent question dans les œuvres de Rabelais, notamment le Gargantua et le Pantagruel, cette moutarde, avant d'être un condiment, a d'abord été une plante sauvage de la famille des crucifères, de la famille du chou et du cresson. C'est une plante herbacée, à fleurs, à pétales disposées en croix, d'où son nom de crucifère. On la connaît par les évangiles qui la nomment sous le nom de Senevé, du latin sinapis, avec ses deux variantes, sinapis nigra, c'est-à-dire moutarde noire, sinapis alba, c'est-à-dire moutarde blanche. Alors, ces deux moutardes à l'état sauvage se caractérisent par une commune richesse en certains alcaloïdes, auxquels tous les crucifères doivent leur vertu médicinale. Car il faut savoir une chose, c'est que cette moutarde au sens de condiment, plutôt qu'encore que de la plante de Senevé qui est à la base de la préparation condimentaire, cette moutarde à l'état de pâton onctueux, mou, humide, doux, est obtenue par le broyage des graines de Senevé, de moutarde si vous voulez, blanche ou noire, adjonction d'eau, de sel, de vinaigre, longue macération, et cette préparation, qui pour nous est un condiment, a d'abord été une préparation médicinale. Et ce sont les modes de préparation de la moutarde, en vue d'en faire un médicament à usage externe ou interne, qui en firent à l'expérience un condiment. Alors le Senevé des évangiles, qui sont dénommés noir ou blanche en fonction de la couleur des graines, possède des propriétés, des vertus, des qualités ou des défauts, enfin des défauts, disons des problèmes d'emploi différents. Elle fait partie de la famille des brassicacées, c'est-à-dire la famille du chou, plus précisément des crucifères. Dans ces familles, on classe, on range le chou, le navet, le radis noir, la roquette, bien connue dans nos régions, ce condiment des salades hivernales, les radis de printemps, la lierre, plante sauvage commune dans nos régions, le réfort, la cochléaire, qu'on appelle aussi crançon. Alors ces plantes de cette famille, donc, que ce soit les moutardes blanches ou noires, ou les autres crucifères et brassicacées, qui sont souvent des légumes cultivés, mais quelquefois aussi des plantes sauvages comestibles, possèdent divers composants communs, composants qui sont capables de mutations chimiques internes aux plantes, et précisément à la moutarde elle-même, lors de la préparation à des fins médicamenteuses ou condimentaires. On a identifié de nos jours dans les CNV, dans les graines de moutarde et dans la plante elle-même, dans les tiges et les feuilles, mais surtout dans les graines. On a identifié deux alcaloïdes, un acide, un sel, le myronate de potasse, et un élément qui est commun avec le raifort, le radis noir, le crançon, l'érysimum vélar, la fameuse herbe au chantre des herboristes. Un remède remarquable contre les problèmes de voie respiratoire, et notamment du larynx et du pharynx. Alors cet élément commun, il porte un nom que je vais quand même vous donner, mais qui va vous paraître barbare, c'est l'isothiocyanate d'allyl, oulala, obtenu par hydrolyse d'un hétéroside sulfuré, le synhygroside, ou avec ça nous allons loin. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Mais que ces substances contenues dans les graines de moutarde, lors de la macération dans de l'eau salée additionnée de vinaigre, pendant un temps très long, 60 jours de macération, développe des qualités, des vertus que l'on retrouve dans le piment, le poivre et, chose plus extraordinaire, la capucine. Fleurs, graines et feuilles de capucine. Alors, les moutardes noires et blanches, qui sont très utilisées comme condiments, surtout la blanche, la noire est réservée à l'usage médicinal et surtout à l'usage médicinal externe. Ces moutardes, la noire surtout et même la blanche, en usage interne excessif, si on les avale, si on les mange, si on en fait des tisanes, des macérations prolongées, la moutarde, noire ou blanche, révèle, à l'usage interne excessif, révèle une certaine toxicité. Les graines de moutarde, noires comme blanches, sont des irritants des muqueuses, digestives notamment. Ce sont des vomitifs, si on en consomme à trop forte dose. Elles provoquent des gastro-entérites violentes, des diarrhées et des diurèses, elles font uriner, mais des diurèses et des diarrhées mousseuses. Il y a excitation puis paralysie des centres neurovasculaires avec hypothermie. L'hospitalisation est absolument nécessaire. Hein. Il ne faut pas compter s'en sortir sans hospitalisation. Alors, on s'est aperçu à l'analyse chimique que les graines de moutarde contiennent des substances qui donnent naissance en présence d'eau, mais pas n'importe quelle eau, à de l'essence de moutarde, qui est l'élément recherché pour les effets révulsifs, qui peuvent certes s'avérer toxiques à trop forte dose, mais qui sont aussi la base de la saveur brûlante de la moutarde et de l'excitation de l'appétit que celle-ci provoque. Alors vous me direz, il faut de l'eau. Macération dans de l'eau, mon Dieu, c'est pas bien dangereux. Oui, mais il faut une eau froide, parce qu'on s'est aperçu que la chaleur supérieure à 50 degrés empêchait la formation de l'essence de moutarde. De même, me dit-on, dans tous les bouquins que j'ai pu consulter, l'addition d'acide, or le vinaigre est un acide, ou d'alcalène, ce qu'on appelle les bases, les caustiques. Et malgré tout, dans la recette traditionnelle de la moutarde, on doit utiliser certes de l'eau salée et du vinaigre. Alors, selon les recettes, on met le vinaigre au début de la macération dans l'eau salée ou on le met à la fin. Les auteurs ne sont pas tous d'accord là-dessus. Alors, cette essence de moutarde, je vous disais qu'elle est responsable de la saveur brûlante du condiment lui-même, qui est la moutarde. Et on s'est aperçu du reste que cet effet, si vous voulez, de révulsif, cette saveur brûlante, ne pouvait être obtenue en cuisine ou en matière médicale, que par macération prolongée dans l'eau froide et salée, avec le problème de l'addition de vinaigre, avant ou après, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il faut le mettre. Alors, l'important, c'est la longueur de temps de la macération. Il faut que la macération dure au moins un mois, voire même deux. 60 jours sont préférables à 30. 15 jours, c'est le minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre. C'est même pas suffisant. Alors, la graine de moutarde contient, et c'est intéressant, des mucilages. Les mucilages, c'est un peu comme la bave d'escargot, si vous allez par là, ou de limaces. Et ces mucilages sont des émollients anti-inflammatoires qui combattent donc les effets trop irritants de l'essence de moutarde. Ce sont des émollients, alors que la moutarde est plutôt irritante, révulsive et donc pro-inflammatoire, si on pourrait dire. Mais s'ils sont émollients, ils sont aussi laxatifs, comme tous les mucilages. Alors, l'utilisation qui en ressort de la moutarde est variable selon qu'on utilise la moutarde noire ou la moutarde blanche. Consultant tous mes vieux bouquins d'herboristerie, je me suis aperçu que ceux qui font autorité en la matière, du docteur Leclerc, du docteur Cazin, le fameux manuel pratique d'herboristerie qu'on appelle le Compain, ne semblent guère craindre quoi que ce soit de l'usage même interne et prolongé de la graine de moutarde blanche et même noire. Mais enfin, il y a quand même une toxicité dont il faut se méfier. Alors, en usage externe, c'est-à-dire en cataplasme, la moutarde, je vous le disais, est utilisée comme révulsive. En fait, elle est utilisée comme ce qu'on appelle dérivatif sanguin. On l'utilisait autrefois en cas de congestion sanguine, cérébrale ou autre, par application en cataplasme. Dans nos régions, méridionales et occitanes, On se servait, mais alors en usage interne, en cas de congestion cérébrale, de congestion sanguine, d'apoplexie, de pléthore, on se servait d'un arbuste aux fruits toxiques, au feuillage qu'il est un peu moins, qui est le rame ou salaterne. Mais on l'utilisait en usage interne, c'est-à-dire en ingestion de vin blanc qui aurait lessivé des cendres d'un rame ou salaterne sec et réduit en cendres par combustion. Alors la moutarde, parce qu'elle est dérivative externe du flux sanguin, c'est un antalgique, c'est-à-dire elle combat les douleurs. C'est un remède naturel, en usage externe, en cataplasme, des voies respiratoires, contre les affections fébriles hivernales, pneumonie, bronchite et compagnie. Elle a, en médecine familiale et en herboristerie traditionnelle, le même emploi en usage externe que le gingembre en usage interne. Le gingembre que l'on peut consommer tel que ou confit dans le sucre est aussi utilisable pour les problèmes de voies respiratoires hivernales. Mais alors le gingembre, on peut le manger, j'en suis très gourmand moi-même. Les propriétés que l'on prête au gingembre, ce sont celles de la capucine dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un excellent remède des voies respiratoires. Alors en usage interne, si la moutarde est stimulante et tonique, elle est aussi irritante des muqueuses. Et elle est aussi antibactérienne, antifongique, antiputride, anti-infectieuse. Enfin bref, c'est un remède général. Le Moyen-Âge appréciait beaucoup le goût de la moutarde comme condiment, au moins autant que comme médicament. À ce titre-là, elle sert, comme elle est antifongique, c'est-à-dire contre les champignons, la formation de champignons, antiputride contre les corruptions, le pourrissement, anti-infectieuse contre les bacilles et bactéries. Elle sert à la conservation naturelle des aliments, au même titre que le sel. Il n'est pas nécessaire de mettre la moutarde au frigo, ce que font certains. Elle n'en a aucun besoin. Son usage principal de nos jours, c'est un usage condimentaire. Le fils herboriste que je suis pourrait vous donner des conseils en cas d'usage excessif de moutarde. Il y a des plantes qui en sont l'antidote naturel, mais en cas d'intoxication, il est absolument indispensable de se faire hospitaliser. La moutarde, dans la flore européenne ou importée, comme je pense à la capucine, la moutarde a des plantes qui lui servent d'adjuvant, des adjuvants synergiques, c'est-à-dire qui agissent de concert avec la moutarde. Elle a des adjuvants qui neutralisent ses effets, désagréables. Ils abondent dans la flore de nos régions, que ce soit des plantes de la famille des crucifères pour les synergiques toniques et tonifiants. Il y a même certains antibiotiques naturels, antiviraux, dans notre flore locale, mais surtout, je pense à la capucine, à la flore venue des régions tropicales. Il y a des calmantes, émollientes, pensons aux fleurs de primevère, etc., etc. On n'en finirait plus. Il y a évidemment les fameuses fleurs béchiques, célébrées par le docteur Leclerc dans son manuel de phytothérapie. La tisane des quatre fleurs, non trompeur, parce qu'elles sont sept. Alors je vous dirais que parmi elles, il y a, vous allez être un peu surpris, une plante que vous devez tous connaître certainement, le gnaphale dioïque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est une plante des Alpes dont la cueillette de nos jours sévèrement limitée, sévèrement contingentée. Il y a d'autres plantes plus communes dans nos régions. Alors ces utilisations diverses de la moutarde sont intéressantes parce qu'elles reposent sur une histoire de la botanique médicale et de l'herboristerie dont nous allons parler après une petite interruption musicale.
Soit gras ou à l'anglaise, jaune, sucré ou de Dijon, très fort au miel à la française, en pot, tube ou faite maison. Parfois je ne sais pas ce qui m'arrive, je sens le rouge monter au jour, de tout contrôle elle me prive et là ça ne va pas du tout. T'enfuir en courant. Allez, prends tes jambes, va t'en coup, gaz, moutarde, nous compte.
Parler maintenant de l'histoire des usages de la moutarde. Il faut savoir que la moutarde, qui est une crucifère, comme toutes ses congénères de cette famille, affectionne plutôt les latitudes septentrionales. Plus on s'éloigne des régions boréales, du pôle nord et, ou du pôle sud, moins on trouve de crucifères. Il y a 19 sortes différentes de crucifères dans le grand nord scandinave. Il n'y en a que 6 en Méditerranée, Afrique du Nord et Proche-Orient. Or, la moutarde que nous utilisons, le CNV, Sinapis en latin, alba ou nigra, peu importe, est originaire du Proche-Orient, et précisément des confins qui se trouvent de nos jours entre l'Irak et l'Iran. Alors, la moutarde comme plante était utilisée au Moyen-Âge comme dans l'Antiquité, plutôt pour ses feuilles, comme médicament et comme condiment, que pour ses graines. Les graines étaient réservées à l'usage médicinal, alors que les feuilles, elles, étaient d'un usage beaucoup plus général. La moutarde, je vous le disais, par sa région d'origine, les confins entre l'ancienne Mésopotamie et le plateau iranien, les monts Zagros, le versant occidental, qui fait partie donc de ce qu'on appelle le croissant fertile, la région d'origine de l'agriculture, de la culture des céréales et des légumes secs, de l'élevage des bovins, des moutons, des chèvres et même des porcs. La moutarde était connue des anciens Mésopotamiens, de Babylone et du nord de la Babylonie, le pays d'Akkad avec deux K. C'est le centre et le nord de l'Irak actuel. On la connaissait en ancienne Mésopotamie, à Babylone et en pays d'Akkad, comme légume et comme condiment, sous un nom qui est sémitique. Il n'est pas du tout sumérien. Alors, s'il était sumérien, le nom viendrait du sud de l'Irak actuel, le pays de Sumer. C'est le pays du palmier dattier, tout simplement. Il est beaucoup trop chaud pour la culture de la moutarde. Et dans le centre et le nord de l'Irak, et surtout sur le versant des monts Zagros, la moutarde est sauvage, elle en est devenue à être cultivée, elle faisait partie des premiers légumes dans les jardins de la Mésopotamie ancienne, les jardins suspendus de Babylone, et elle portait un nom assez intéressant parce que ce nom en akkadien, donc en langue sémitique ancienne, aux origines de ce que sont de nos jours l'hébreu, l'arabe, l'araméen et les langues de ces régions-là, son nom était kassou. Le radical c'est kass, kass, si vous voulez, que vous retrouvez dans le nom du couscous, kass-kass. Ça désigne en fait une graine fine comme un grain de sable, d'où la parabole de l'Évangile sur le grain de sénévé qui est petit comme une tête d'épingle et qui devient comme un arbre gigantesque. C'est quand même pas le cas de la moutarde, qui dans nos régions est sauvage. Vous avez des moutardes sauvages dans les vallées du Quercy-Blanc. Il y en a en dessous de chez moi, dans la vallée de la Nègre-Vieille. On l'appelle la Rabanello, la Ravenelle, si vous voulez. Alors la moutarde, dans le Proche-Orient ancien, la moutarde sous le nom de kess ou kassou, était associée à un ingrédient que le sémitique ancien appelle taptou. Et tab, T-A-B-T-U, si vous voulez, T-A-B comme Bernard, T-U, taptou. qui repose sur le radical tob, tb, voire l'hébreu tob, tout ce qui est bon à manger. Donc le tabtou, c'est ce qui est bon à manger. Pour les spécialistes de la Mésopotamie ancienne, le tabtou, ce serait le sel. Et déjà dans la Mésopotamie ancienne, aux feuilles broyées, écrabouillées, ou même aux graines écrabouillées, écrasées de moutarde, on ajoutait certes du sel, de l'eau, mais aussi on y ajoutait un élément, le tabatou. C'est un féminin, comme le sel en latin, salis en latin c'est féminin, en orc c'est la sal. Alors ce tabtou, qui est un ingrédient majeur, on ne sait pas trop ce que c'est. Les spécialistes comme Jean Bottero, Jean Johannes, se demandent s'il est vraiment justifié de le traduire par vinaigre. On n'en sait rien. En tout cas, on sait que les Babyloniens, les Suméro-Acadiens, les anciens Mésopotamiens utilisaient en médecine la moutarde écrasée en pâton. Ils l'utilisaient écrasée en pâton avec du cresson pour application en cataplasme, mais aussi ils l'utilisaient comme légume, comme condiment. On retrouve la chose en Égypte ancienne, qui utilisait la moutarde en cuisine, comme condiment et en médecine. Alors là, c'est ce qui caractérise la médecine de la Mésopotamie et d'Égypte ancienne. Ils n'utilisaient la moutarde que comme cataplasme, en application externe, et des feuilles réduites en pâton. Les graines, on ne sait pas trop. On hésite sur l'interprétation des textes qui soient en caractère cunéiforme mésopotamien ou en hiéroglyphe. Dans notre monde occidental, qui a été un monde hellénisé, gaulois, romains, grecs. Il ne faut pas oublier que les Grecs ont été le pont qui a permis aux influences du Proche-Orient de pénétrer en Europe. Les plus anciennes mentions certaines de graines de moutarde broyées en pâte à utiliser en cataplasme de farine complète, enveloppe des graines et tégument compris, additionnées de vinaigre, d'eau et de sel, se trouvent dans Pline l'Ancien, dans la partie de son œuvre de l'histoire naturelle où il traite des vertus des herbes. Alors Pline l'Ancien, c'est le 1er siècle de notre ère, aux alentours de 100. Il est contemporain de l'empereur Trajan. Pline l'Ancien rassemble tout ce que l'on savait de la moutarde de son temps. Il est repris ensuite par Galien dans sa méthode de traitement. Alors Galien est un médecin vers 200 de notre ère. Il est contemporain des successeurs de Trajan, Marc Aurèle, mais aussi des empereurs du début de la dynastie des Sévères, vers 200 de notre ère. Alors Pline l'Ancien, comme Galien, la recommande comme médication principale. Plus exactement, c'est Galien qui la recommande comme médication principale active, mais aussi, et c'est là ce qui est intéressant chez Galien, il faut lire sa méthode de traitement, il utilisait les cataplasmes de moutarde, ou même l'ingestion de moutarde, comme test pour susciter dans l'organisme du malade des réactions qui lui permettait ensuite d'établir un diagnostic, un peu comme nos analyses modernes et nos check-up actuels. Galien utilisait la toxicité éventuelle de la moutarde. Il ne faut pas oublier, grand principe de la médecine ancienne, tout est poison, rien n'est poison, tout dépend de la dose. Alors il utilisait la moutarde à une dose qui était encore médicinale, encore thérapeutique, mais qui frisait presque la toxicité, pour susciter chez le patient des réactions qui l'orientaient dans son diagnostic, qui lui permettaient de voir de quelle maladie, de quel trouble de santé pouvait souffrir l'organisme du malade. Cela évidemment relevait des conceptions courantes dans la médecine de son temps sur les humeurs, en rapport avec les éléments de l'univers, le chaud et le sec, le froid et l'humide, le chaud et l'humide. Vous avez plusieurs combinaisons possibles entre tous ces éléments. Et qui se retrouve du reste à propos de la moutarde, qui est considérée comme chaude et sèche, au quatrième degré. Déjà chez Pline, comme chez Galien, et ensuite chez les médecins occitans du Moyen-Âge. Et Pline l'Ancien, le naturaliste, rassemble donc, lui, tout ce que l'on savait de la moutarde, du CNV, de ses modes d'emploi, cataplasme ou préparation à ingérer, des différents usages que l'on en faisait. Il nous apprend que déjà, au VIe siècle avant notre ère, en Grande Grèce, le sud de l'Italie actuelle, Pythagore, le fameux philosophe, dont je vous ai parlé à propos de l'interdiction de consommer des fèves, puisque la fève était supposée contenir l'esprit des défunts, Pythagore reconnaissait au CNV, à la moutarde, des vertus traitant le haut du corps. Qu'est-ce qu'il pouvait traiter? Mais c'était le nez et le cerveau, d'où l'expression « la moutarde me monte au nez », car déjà la Bible voyait dans la sensation que l'on éprouve lorsqu'on mange une moutarde trop forte, cette sensation de montée de brûlure vers le nez et vers le cerveau, vers le front, la Bible y voyait l'image de la colère de Dieu contre son peuple, la colère de Dieu qui est l'expression de son amour. Pline nous conte que la plante de moutarde, la feuille ou les graines, sont caustiques par leur suc. Le suc de la moutarde provoquerait des lésions de la peau s'il est utilisé en cataplasme direct de graines broyées et macérées dans le vinaigre. Encore, il n'est pas question d'eau ni de sel. Aussi, du temps de Pline, on neutralisait la moutarde en l'additionnant de figues. Je pense que c'est des figues bien mûres, parce que le latex des figues, encore un peu vertes, est un caustique lui aussi. Les figues passaient pour adoucir l'âcreté du suc de la moutarde, la chaleur de ses graines. C'est toujours Pline qui nous le dit. Les graines étaient macérées dans l'huile, écrasées, ce qu'on fait avec la préparation de la moutarde condimentaire moderne. Elles étaient écrasées. Il semble bien que l'on ait mélangé ce broyat à l'huile de macération et ça donnait un excellent liniment, si vous voulez, une espèce de pommade, contre les raidissements de tendons, de vertèbres lombaires, les lombalgies, les douleurs de hanches, les coxalgies, et contre les refroidissements qui se traduisent par des maux de poitrine. C'est toujours valable, je pense, de nos jours. On pourrait se faire soi-même une bonne pommade contre les douleurs articulaires, musculaires, tendineuses, lombaires et autres, avec de la moutarde. On retrouve dans ces cataplasmes de moutarde, de graines broyées, additionnées de figues et de vinaigre contre les douleurs internes, ce que l'on croyait être à l'origine de ces douleurs musculaires et articulaires. On pensait que la moutarde faisait sortir du corps, ça c'est important, c'est une expression qui m'a été donnée par des guérisseurs du vieux Quercy-Blanc, la moutarde faisait sortir du corps des impuretés profondes qui attaquaient les articulations, ce sont nos arthroses et nos arthrites, et ces impuretés étaient expulsées par la moutarde. La moutarde faisait sortir. Rappelez-vous ce que je vous disais une fois de notre fameuse plus que guérisseuse de mon cul, qui me disait de la verveine sauvage, la verveine des champs, pas la verveine que vous buvez en tisane, qu'elle faisait sortir le mal du corps. Alors Pline nous précise qu'en cas de grande raideur musculaire, de blocage des articulations, on ne mettra pas de figues, on utilisera seules les graines de moutarde broyées dans du vinaigre, sans macération, et non pas dans l'huile. Il semblerait que les graines de moutarde broyées dans le vinaigre soient encore plus actives que lorsqu'on les broie dans l'huile. Plus loin, Pline nous donne une recette médicamenteuse qui en fait est pour nous condimentaire. Il s'agit, selon Pline, de faire macérer des graines et des racines de sainevé, de moutarde, dans du moût de raisin. Broyer ces graines et ces racines avec le moût, ça fait donc une espèce de pâte, dont on absorberait chaque jour une poignée. Ce pâton soigne les maux de gorge, d'estomac. C'est un bon moyen, à mon avis, de se provoquer des gastralgies, des gastrites, voire même un ulcère d'estomac, qui peut dégénérer. Pire qu'un ulcère. Elle soignerait également, alors ça c'est de Pline, le cerveau, parce qu'évidemment le goût, la saveur brûlante remonte par le nez vers le front, on a l'impression que ça atteint le cerveau. Ça soignerait les yeux et tous les sens, olfactifs, tactiles et autres. Pline fait de la moutarde un fortifiant général, ce qu'elle est toujours dans l'herboristerie traditionnelle, moderne, la phytothérapie moderne. Et c'est déjà là notre moutarde culinaire, condimentaire, européenne, médiévale et moderne. Alors elle est considérée, je vous le disais tout à l'heure, comme une médication chaude et sèche par Galien, par Pline. Les indications thérapeutiques que nous donne Galien de la moutarde se retrouvent dans les œuvres de l'Université de Montpellier et de médecins formés dans celle-ci, dont un fameux médecin dont les œuvres nous sont parvenues, éditées aux éditions Priva par Alfred Jean Roy en 1958, Recettes médicales, magiques et alchimiques en langue occitane du XVe siècle, ouvrage que tout occitanophone devrait avoir. C'est de l'occitan du Moyen-Âge. Et ce médecin de Montpellier, qui était, semble-t-il, originaire du Rouergue. La tradition se maintient des migrations de population du Rouergue et du Gévaudan vers le Quercy. Alors, ce médecin nous dit que « Mustardo es caudo e seco al quart gras ». La moutarde est chaude et sèche au quatrième degré, le plus fort, le plus élevé. Que ou la uso de mansa, fa ici tutos malos humus del cors de la hygiene et fa ben urina. Que la uso de mansa, qui a pour habitude de la manger, fait sortir, fa ici tutos malos humus, fait sortir toute mauvaise humeur du corps, des gens, bon, du corps, et fait bien uriner. La moutarde, donc, s'avère déjà ce qu'elle est, effectivement, diurétique. Alors, ces préparations thérapeutiques, à usage externe comme interne, je vous le répète une fois de plus, sont aux origines de nos moutardes, qui furent longtemps des médicaments, comme le sucre, les épices, le café, le thé, le chocolat, le tabac lui-même, qui au début a été utilisé comme médicament pour des problèmes de douleur de sinusite, avant qu'il ne devienne donc un condiment. Alors, il se pourrait que ces compositions de moutarde en pâte, antiques et médiévales, médicamenteuses avant d'être condimentaires, aient obéi aux principes diététiques, hygiéniques, médicaux, d'équilibre des forces de la nature, des humeurs, des vertus des plantes, des éléments de la nature et de la matière. D'où l'idée qui est venue aux fabricants d'additionner la moutarde, de sel, ou bien quelquefois de verjus, le jus de raisin pas mûr, que l'on récolte au mois d'août, quand ils sont encore verts, de moût de raisin, de vinaigre, d'eau, d'épices divers, en fonction des vertus prêtées à ces différents ingrédients. Alors, la macération est longue, elle doit durer 60 jours, dans l'eau salée et vinaigrée, et ce qui n'est pas sans m'évoquer les pratiques druidiques de longue macération jusqu'à fermentation mousseuse de plantes médicinales, parfois aussi toxiques, broyées dans l'eau de source divine, ce qu'on appelait des divonae, le nom de divona, cadurcorum, divone de cadurque, caor, qu'on appelait aussi des saliae, d'où le nom de salis de Béarn, par exemple. Alors, les plantes macérées dans des bassins de déversement de ces sources au point de jaillissement de celles-ci, ou bien dans des chaudrons d'immortalité, de cure thérapeutique, où on recueillait les eaux de source, divines et célestes, où on laissait macérer les plantes jusqu'à fermentation. Alors évidemment, là, à ce moment-là, on entre dans ce que je voulais vous traiter en troisième partie, comment dirais-je, la mythologie, la symbolique, l'histoire et les traditions de la moutarde en pays de Montcuq, en Quercy Blanc notamment, en Quercy Blanc plus encore qu'en Quercy en général. Ce que nous allons voir après un petit intermède musical. La moutarde est à Montcuq une préparation qui eût pu faire la gloire du pays. Elle était basée sur l'utilisation, m'a-t-on dit, par les gens qui ont connu le produit, qui ont pu le goûter, sur l'utilisation, et puis qui étaient témoins plus ou moins de la préparation, elle était basée sur l'utilisation de produits locaux, essentiellement, uniquement, ce qui a contribué à faire encore plus sa réputation. Et parmi ces produits locaux, il y avait l'eau d'une source, une source du pays. La moutarde dite de Montcuq ne peut pas être faite avec une autre eau que celle-là. Je vous disais qu'il fallait laisser macérer la moutarde broyée dans l'eau salée et vinaigrée pendant au moins 60 jours, et que cela n'était pas sans m'évoquer les pratiques druidiques. Or, précisément, il se trouve qu'à Montcuq, nous avons plusieurs sources qui, par leur nom, se rattachent au monde celtique, au monde gaulois, au monde des druides, Alors celle de la Bella, en vallée de Nègrevieille, c'était celle dont l'eau était exigée pour préparer sa moutarde par ce fameux vieux Moncuquiol, vieux Moncuquois, dont les descendants, la famille existe encore, mais qui refuse de continuer la fabrication et qui sont seuls propriétaires de la recette, de la formule et du droit de fabriquer et de commercialiser. Ce monsieur ne voulait comme eau pour préparer sa moutarde que celle de la Bella, à Moncuq, au bord du chemin de la Combe de Roubelet, ou Camille de la Combe de Roubelet. La source de la Bella est connue de tous les vieux Moncuquois. Elle est entourée d'un aura magico-religieux certain. C'est une source éternelle. Mais, quand on sait que certaines préparations mésopotamiennes et égyptiennes exigeaient de mélanger, ça c'est une pratique d'herboriste, la moutarde avec du cresson, notre attention se portera en vallée de la Séoune vers la source de Mourgues, qui est un petit hameau dépendant de la commune, de l'ancienne commune de Bagat, plus exactement de la paroisse de Lasbouygue, en pays de Moncuq. Où signe pour tout bon herboriste, plus ou moins chamanisant, voire druidisant, abonde le cresson. Associé à la moutarde, je viens de vous le dire, dans la cuisine en médecine antique. D'autant que le nom de Mourgues m'intéresse d'autant plus qu'il est le nom de mes ancêtres en ligne maternelle ascendante, puisque le grand-père maternel de mon grand-père maternel était un Mourgues de Lebreuil, maire de Lebreuil pendant 50 ans, et la famille est originaire de Mourgues, Mourgues en vallée de la Séoune. Or, le nom de Mourgues a plusieurs étymologies possibles. Soit il nous rattacherait à une étymologie qui désignerait le lieu comme ayant été un lieu d'implantation de moines venus d'un monastère. Ça peut être Saint-Pierre de Moissac ou Saint-Amand et Saint-Géry à Cahors. Mais également, le nom de Mourgues désigne un lieu comme formant la limite occidentale de lieux sacrés, interdits, mais de lieux sacrés druidiques. Lieux marqués par des eaux, des cours d'eau, des marécages, c'est le cas à Prégnac par exemple, où le ruisseau de la Mourguière sort du bois des Cradernes, le bois du chêne qui inspire la terreur sacrée. Ces sites, au nom formé sur Mourgues, sont donc des sites sacrés. De même que Saint-Jean-le-Froid, par exemple, en pays de Moncuq, qui, par son bassin extérieur, évoque tout à fait ce qu'étaient les rites druidiques de préparation de plantes macérées longuement jusqu'à fermentation dans l'eau de sources recueillies dans des bassins de décantation. Alors les moutardes anciennes et médiévales, c'est donc le produit de mélange de graines de moutarde blanche, plutôt que de moutarde noire, broyées, réduites en farine, dans du vert jus de raisin vert, cueillis en août, du moût de raisin après les vendanges, par exemple. Mais dans d'autres régions, on pouvait utiliser différents ingrédients. Alors sur la recette de la moutarde de Moncuq, qui reste un secret familial jalousement gardé et que je respecte, et qui est protégé par la loi, on sait qu'il y avait différents ingrédients locaux. Alors les voisins, le soir, l'été, lorsque nous parlions sur des bancs devant nos portes, supputaient qu'est-ce que le fabricant avait l'habitude de mettre dans sa moutarde. On ne sait pas, il y avait différents témoignages. Ça reste dans le monde de l'interdit, du non-dit, de ce qu'il ne faut pas dire, en latin le nefandum, c'est-à-dire ce qui est tabou. Il faut savoir que dans ce pays de Moncuq, ce qui m'intéresserait, c'est que la moutarde illustre ce que furent les modes de vie des bourgeoisies des campagnes et des bourgs, illustré par l'ouvrage de Françoise Ricoste, La bourgeoisie des campagnes et des bourgs dans le Quercy d'Ancien Régime, mais campagnes et des bourgs de la France ancienne et du XIXe siècle républicain, post-aristocratique. France ancienne, friande de gibier, de viandes rouges et blanches, de bœufs, de veaux, de volailles et de porcs, de rôtis et de plats mijotés. Peu friande de légumes, sauf comme ingrédient secondaire à des plats de viande. Fromage, forts en bouche, tels que le Cantal vieux, plein d'artésus, c'est comme ça que j'aime le Cantal. Roquefort, cabécous, dur comme des pierres, bon à mettre macéré dans l'huile de noix avec de l'ail. Les vrais cabécous se mangent à l'état de peyrals, quand ils sont bien durs et bien vieux. De même que pour les viandes, on mangeait peu de fruits, sauf comme assortiment de pâtisserie. Par contre, abondaient les liqueurs, les cafés, les vins forts ou fins et capiteux. Au fond, tout ce qu'il fallait pour faire des goutteux, des arthritiques, des eczémateux, des hypercholestérolémiants, des hémorroïdaires, des gastralgiques. Heureusement, y avait-il alors des herboristes, bons et fameux, mais aussi des médecins phytothérapeutes. Je pense au docteur Leclerc ou à son prédécesseur, le docteur Cazin. Bossuet souffrait de tous les maux possibles et imaginables occasionnés, provoqués par l'excès des aliments dont je viens de parler. Et il soignait son eczéma et son arthrite aux vins de Bourgogne. Ce qui n'était pas la meilleure façon. Alors, donc, je vous disais qu'à Moncuq, que la moutarde fut un produit qui aurait pu assurer la gloire du pays, mais ça se comprend par des circonstances historiques bien précises, sociales, économiques et politiques. En effet, la moutarde de Moncuq apparaît dans la commercialisation dans les années 1880-1900. c'est-à-dire lorsque les lois de Jules Ferry se traduisent, mais elles ne sont pas les seules en cause, par une francisation du langage courant commun parlé. C'est-à-dire que nous sommes à une époque où nos régions, jusque-là, et jusque vers 1930, et même 1950, j'ai connu des cas jusqu'aux années 60, totalement, profondément occitanophones, deviennent de plus en plus francophones. Le français se répand par l'éducation, la presse locale et régionale, pensez à la Dépêche du Midi, à ce qu'était avant la guerre de 40 le Journal du Lot, des modes de vie et de comportement que je qualifierais, une étiquette facile entre guillemets, de parisien, achèvent alors de s'instaurer comme modèle de référence, de même que le français devient la langue de référence. Quand on ne sait plus un mot en occitan, on utilise un mot français que l'on occitanise. Le vocabulaire occitan se perd, il est remplacé par un vocabulaire français occitanisé. Les aspects autochtones des coutumes méridionales, pensez à Tartarin de Tarascon, à Cyrano de Bergerac, se perpétuent comme motif pittoresque qui assure le succès auprès des foules parisiennes. Amoureuses des productions du théâtre de boulevard. Ce sont des productions culturelles dites typiques du Midi, le Grand Sud Occitan, alors méditerranéen comme aquitain, auvergnat comme gascon, périgourdin comme quercinois, rouergat comme lozérien du Gévaudan. Les différences n'apparaissent pas aux écrivains parisiens qui ne sont pas au courant des réalités des provinces. S'y ajoutaient également des espagnolades pour corser la recette. Pensez aux Trois Mousquetaires, à l'Arlésienne, à d'autres productions culturelles de la sorte. Et alors, outre les goûts culinaires hérités des repas, des cours aristocratiques et royales d'Ancien Régime, déjà attestés par les livres de cuisine médiévaux, l'appétence pour les repas soutenus de moutarde, la prononciation parisienne du français d'oeil était présentée comme le mode correct de prononciation des mots et des noms de choses, des personnes et des lieux. C'est ainsi que, alors que le bourg de Montcuq jouit, bénéficie dans les années 30, 40, 50 d'une réputation auprès des médecins parisiens comme d'un site de cure sédative. Les médecins parisiens envoyaient passer leurs vacances à Montcuq, même toute la belle saison, des citadins surmenés, épuisés nerveusement, qui étaient là envoyés donc en cure de repos. On considérait que l'air de Montcuq, le paysage, le ciel, la lumière, le climat local étaient sédatifs. Ces gens venaient à Montcuq avec leur accent, leur prononciation. Ils donnaient le ton aux gens de Montcuq. Comment doit-on prononcer le français scolaire? N'oubliez pas que nos instituteurs, pour apprendre l'orthographe aux petits élèves du sud de la France, leur disaient « Vous êtes dans des pays où toutes les lettres se prononcent. » D'où la prononciation du nom de Montcuq. Ça se comprend. On ne dit pas Montcuq, qui est une vulgarité stupide. Or, la moutarde de Montcuq commence à être connue, diffusée et distribuée et à atteindre une célébrité nationale au moment où le français se répand de plus en plus. Dans des régions autres que méridionales, on prononçait donc la moutarde de Montcuq et non pas de Montcuq. Il faut savoir qu'en occitan, la confusion est impossible parce que Montcuq en occitan se dit Montcuq, voire même Montcut pour les gens du boulevre, alors que la partie de l'anatomie désignée par le latin culleus, le cul, si vous voulez, avec C-U-L, se dirait en occitan « muncul »,« lumen unecul ». Donc il n'y a aucune confusion possible. Mais c'est à ce moment-là donc que notre muncuquiol fameux et célèbre a conçu sa moutarde et l'a diffusée. Il a eu un succès phénoménal auprès de la clientèle. Et encore de nos jours, il arrive que l'on demande aux héritiers s'ils ne voudraient pas vendre leurs recettes. Encore des touristes qui ont connu Montcuq dans les années, il n'y en a plus beaucoup maintenant, dans les années 50-60, en parlent. Et en cherchant sur Internet, je me suis aperçu que des études de commissaires-priseurs mettaient en vente les pots de moutarde de Montcuq, qui ont fait la célébrité du produit. Ces pots évoquaient la forme d'un pot de chambre et figuraient dessus une phrase, outre le nom du fabricant, qui était particulièrement amusante pour un public non méridional, non occitanophone. Évidemment, dans nos régions, il en allait autrement. Mais c'est, si vous voulez, la moutarde de Montcuq, et donc l'expression même d'une phase de l'évolution de la culture du Midi de la France, le passage d'un Midi totalement occitanophone à un Midi de plus en plus francisé, et où les modes de vie, des comportements, la prononciation du français à la parisienne servent de normes de référence, ce qui se traduit dans ce que j'appelle vulgairement l'abâtardisation de l'occitan. Un occitan qui n'est plus de l'occitan tel que j'aime le parler ou le lire ou l'écrire, mais qui est une espèce de, il faut bien le dire, de patois où le français occitanisé l'emporte sur l'occitan pur et dur. après que l'Occitan ait joué un rôle dominant et orientateur et directeur dans la culture de l'Europe médiévale. N'oubliez pas que beaucoup de mots français viennent de l'Occitan, par exemple « amour ». Le latin « amor » aurait dû donner en français d'oeil un mot du type « amour », voire même « amur », et non pas « amour », qui est de l'Occitan. Vous avez aussi le mot « ambassade », par exemple, et vous en avez d'autres. On peut donc tirer bien des choses. J'ai essayé d'être aussi synthétique que possible, c'était difficile. Je remercie quand même, avant de terminer, un de mes voisins proches, et qui m'a donné le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Mais François, vous êtes un peu en panne, j'étais devant une page blanche, quelle idée je... Mais parlez donc de la moutarde de Montcuq. Et je dois donc le remercier. Il se reconnaîtra lorsqu'il écoutera l'enregistrement mis en ligne sur Internet. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors à une autre fois, et j'espère que nous nous reverrons, et que tout se passera bien pour tout le monde d'ici là. Au revoir.
He's too old to cut the mustard anymore. He's getting too old, he's done got too old. He's too old to cut the mustard anymore.
When I was young I had a lot of pep. I could get around, didn't need no help.
But now you're old and getting gray. The people all look at you and say, too old, too old. He's too old to cut the mustard anymore. He's getting too old, he's done got too old. He's too old to cut the mustard anymore. I used to could jump just like a deer,
but now you need a new landing gear.
I used to could jump a picket fence,
but now you're lucky if you jump an inch.
Too old, too old. He's too old to cut the mustard anymore. He's getting too old, he's done got too old. He's too old to cut the mustard anymore.
When I was young, I had an automobile.
Now they push you around in a chair with wheels.
Had to fight the gals off with a stick.
But now they say he makes me sick. Too old, he's too old to cut the mustard anymore. He's getting too old, he's done got too old. He's too old to cut the mustard anymore. I was young and in my prime, the gals all used to stand in line.
But now they go the other way, and as they leave I hear them say,
too old, too old. He's too old to cut the mustard anymore. He's getting too old, he's done got too old. He's too old to cut the mustard anymore. Too old to cut the mustard anymore.